Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 8h à New York et à Port-au-Prince, 14h ici à Paris. Dernière partie d'RFI Midi, une demi-heure sur le continent américain avec l'Uruguay à la une et le retour au pouvoir de la gauche. Chamandou Orsia a remporté la présidentielle hier, mais il n'est pas sûr que cela marque un changement radical dans la vie politique du pays. On en parle avec notre invité juste après le journal. Nous irons aussi en Haïti à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le terme officiel, c'est même l'éradication des violences faites aux femmes. On en est très très loin, nous le verrons avec notre correspondant à Port-au-Prince dans quelques minutes. Et ces violences, elles font aussi la une de l'actualité des Outre-mer françaises. Vous nous parlerez tout à l'heure, Oda Naji Ali, de cet état des lieux alarmant. Une femme sur cinq victime de violences conjugales en Guadeloupe et des violences en constante augmentation en Martinique.
Oui, constat à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, donc ce 25 novembre. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et tout de suite donc le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La Roumanie est-elle en passe de basculer dans le camp des pro-russes?
Et la question se pose, même si le Kremlin dit officiellement ce matin mal connaître Calin Georgescu. Personne ne l'attendait avant les législatives prévues dimanche prochain. Il est pourtant arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Sa campagne TikTok s'est emballée ces derniers jours avec un mot d'ordre. Stopper l'aide à l'Ukraine pour, dit-il, préserver la paix. Alors que la Roumanie a un rôle stratégique dans l'OTAN face à la Russie, Sergio Miscoiu est professeur des universités en sciences politiques à la faculté d'études européennes de Cluj-Napoca, en Roumanie. Pour lui, son discours anti-système a payé.
C'est le discours anti-élite, c'est aussi le positionnement sur des questions, non pas seulement des questions de société, non pas seulement des questions politiques, mais aussi sur des questions plus philosophiques, plus intimes, qui semblent jouer beaucoup. Il faut dire que Calin Georgescu a eu un discours à la fois messianique, à la fois ancré dans l'essentialisme, dans l'âme profonde des Roumains, mais aussi parsemé d'ésotérisme, de naturisme. Donc, tous ces phénomènes-là qui pullulent sur les réseaux sociaux, auxquels une population de moins en moins éduquée dans l'esprit du rationalisme classique est habitué et que la très grande majorité des sondeurs et des analystes n'ont pas vu venir.
Sergio Miscoiu, professeur en sciences politiques en Roumanie, il était votre invité, Anne, à midi et demi. En Géorgie, le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour la première fois en pleine crise politique depuis les législatives, des élections truquées par le camp pro-russe, dénonce l'opposition. La séance s'est tenue sans attendre la décision de la Cour constitutionnelle qui n'a pas encore statué sur la validité du scrutin. L'opposition a boycotté les débats et appelle à une grande manifestation à Tbilissi.
Ce 25 novembre est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et notamment contre les féminicides.
Vaste programme tant la situation est grave. Au moins 85 000 femmes et jeunes filles ont été tuées de manière intentionnelle dans le monde l'an dernier. Pour la plupart, elles connaissaient leur meurtrier, un conjoint ou un membre de leur famille. Au Mexique, la situation est particulièrement violente. Tous les jours, 10 femmes meurent sous les coups d'un homme dans le pays. Et lorsqu'elles survivent, un parcours du combattant juridique les attend pour obtenir ou souvent ne pas obtenir justice. Reportage de notre correspondante à Mexico, Marine Lebeg.
Quand elle commence à parler, Arélie Escobar, 27 ans, laisse glisser le foulard bleu qui lui recouvre la tête. Sur son cou et sa poitrine, des boursouflures, cicatrices d'une nuit qu'elle n'oubliera jamais.
Tu veux souffrir? Quand il m'a dit ces mots, je suis restée paralysée. Il m'a renversé une bouteille d'alcool à brûler dessus, de la tête aux pieds. Quand je me suis allongée sur le lit pour m'essuyer le visage avec la couverture, il s'est jeté sur moi avec un briquet. Mes cheveux ont d'abord pris feu, puis c'est tout mon corps qui s'est enflammé.
Deux infarctus dans l'ambulance, un mois passé à l'hôpital. 70% du corps d'Arélie Escobar est brûlé au deuxième et troisième degré. L'enquête ouverte par le parquet n'évoque pourtant que des lésions. Maximiliano Carranza, avocat d'Arélie Escobar.
J'ai contacté les hauts fonctionnaires du parquet de l'État de Mexico, expliquant que l'enquête était menée pour lésions, alors que les faits correspondaient complètement à un cas de féminicide.
Coupable de lésions, il encourait 6 ans de prison. L'ex-compagnon d'Arélie Escobar en risque désormais 60 pour tentative de féminicide. Mais si ce délit est inscrit dans le code pénal du Mexique depuis plus de 10 ans, dans 87% des cas, la justice n'est toujours pas rendue aux victimes de féminicide. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
Aux États-Unis, l'affaire est devenue une série sur Netflix et a fait connaître, ou encore plus connaître, le cas des frères Menendez.
Le grand public a découvert leur histoire condamnée par la justice américaine pour le meurtre de leurs parents il y a 34 ans à la prison à vie. Le mouvement MeToo a changé la donne, la mobilisation en ligne aussi. Leur avocat a demandé que de nouvelles preuves soient versées au dossier. Oriane Verdier.
Ces nouvelles preuves pourraient permettre de transformer leur condamnation de meurtre avec préméditation en homicide involontaire. Lyle et Eric Menendez purgent actuellement des peines de prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. En 1989, l'assassinat des parents Menendez dans une maison huppée de Beverly Hills avait fait la une des journaux américains. Les enfants, alors âgés de 18 et 24 ans, avaient avoué les avoir tués, mais affirmé avoir été violés par leur père. Les procureurs, eux, les accusés d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune de 14 millions de dollars. Entre-temps, le mouvement MeToo a changé la perception des victimes d'agressions sexuelles et la série Netflix, retraçant leur histoire, a relancé l'intérêt pour cette affaire. Une mobilisation en ligne pour leur libération s'est lancée. Aujourd'hui, les deux preuves à intégrer au dossier sont les témoignages de deux autres personnes affirmant, elles aussi, avoir été victimes d'abus sexuels de José Menendez. Une autre audience est prévue le 11 décembre prochain. Une demande cette fois-ci de remise de peine liée à leur jeune âge au moment des faits et à leur exemplarité en incarcération.
En France, le procès des viols de Mazan entre dans sa dernière ligne droite avec les réquisitoires du parquet. Après 11 semaines d'audience, c'est la peine maximale qui a été requise contre Dominique Pellicot. 20 ans de réclusion criminelle pour des agissements jugés abjects. Il a reconnu avoir pendant 10 ans drogué, violé et fait violer son épouse.
Toujours en France, le contexte social reste très tendu avec la multiplication des annonces de suppression d'emplois.
S'ajoute la menace d'achat de fleurons par des entreprises étrangères dans le domaine de l'informatique. L'opération sauvetage d'Atos se poursuit. L'entreprise est en grande difficulté financière. Son cours de bourse a perdu 90% de sa valeur depuis le début de l'année et le groupe a besoin de liquidités pour éviter que les activités les plus sensibles d'Atos, dans le domaine nucléaire notamment, ne finissent entre des mains étrangères. L'État français cherche à les racheter. Nathalie Vitran, la France est prête à nationaliser les supercalculateurs d'Atos.
Oui, les deux parties ont annoncé être entrées en négociation exclusive pour l'acquisition de la division Advanced Computing d'Atos, c'est-à-dire celle qui concerne ces supercalculateurs. On parle ici d'ordinateurs géants aux capacités de calcul hors normes, une technologie avancée utilisée pour le développement de l'intelligence artificielle, les prévisions météorologiques, mais qui sert aussi pour crypter les communications de l'armée française et notamment pour tout ce qui concerne la dissuasion nucléaire. Autant dire une activité stratégique. En juin, l'État français avait fait une première offre sur un périmètre plus large, regroupant toutes les activités sensibles d'Atos pour lesquelles elle est en contrat avec l'armée française. Mais les deux ne sont pas tombés d'accord sur le prix et l'offre a expiré début octobre. Celle-ci est plus resserrée. Elle ne concerne plus que les supercalculateurs. L'État propose entre 500 et 625 millions d'euros, dont 150 millions versés dès la signature qui pourrait avoir lieu avant Noël. La division Advanced Computing représente 2500 salariés, principalement en France.
Un petit point sur les positions des Vendée Globe pour finir ce journal au large de l'Amérique du Sud. Charlie Dalin est toujours en tête au dernier pointage. Dans ce tour du monde sans escale et sans assistance, Thomas Ruyan est deuxième, suivi par Johan Richaume qui se rapproche encore. Il a à nouveau battu le record de distance parcouru en 24 heures. Voilà, c'est la fin de ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicher. Prochain journal dans 50 minutes sur RFI. Pour l'heure, nous sommes sur le continent américain et on prend la direction de l'Uruguay pour commencer.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
L'Uruguay où la gauche revient au pouvoir à l'issue d'une présidentielle beaucoup moins serrée que ce que disaient les sondages. Le candidat Chamandou Orsi a remporté le second tour avec près de 50% des suffrages contre 46% pour son rival de droite, Alvaro Delgado. L'Uruguay se prépare donc à l'alternance politique. Mais une alternance qui ne devrait pas être trop radicale, Théo Conscience.
Ex-professeur d'histoire issu d'un milieu modeste, Chamandou Orsi s'est imposé hier au second tour de l'élection présidentielle. Dans son discours de victoire, l'héritier de l'ex-président Pepe Mujica a promis de travailler à une société plus juste et égalitaire.
Je serai le président qui construira une société plus cohésive, un pays plus intégré, où en dépit des différences, personne ne sera jamais laissé de côté du point de vue économique, social et aussi politique.
social y también político.
Quelques minutes auparavant, le candidat de la coalition de droite actuellement au pouvoir, Alvaro Delgado, avait reconnu sa défaite et félicité Chamandou Orsi. Ce dernier, qui n'aura pas de majorité absolue au Parlement, a promis qu'il serait à l'écoute de l'opposition.
Je serai le président qui appellera encore et encore au dialogue national pour trouver les meilleures solutions, bien sûr en suivant notre vision, mais aussi en écoutant très attentivement ce que les autres nous disent.
Un dialogue qui devrait être facilité par les convergences que Chamandou Orsi et Alvaro Delgado ont laissé voir durant la campagne, notamment en matière de relance de la croissance économique et de réduction du déficit fiscal. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et pour analyser le résultat de cette élection, nous sommes en ligne avec Denis Merklen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Qu'est-ce qui a fait la différence ?
La différence, c'est en partie les critiques qui ont été adressées au gouvernement du président Lacache et actuellement au pouvoir, qui est touché par plusieurs affaires de corruption, lui ou les administrations de son parti. Et puis la préparation de la gauche qui a beaucoup travaillé, qui a déployé un réseau militant d'écoute de la population qui a pu faire un bilan et notamment sortir de l'ancienne génération des dirigeants de la gauche qui avaient fait les derniers gouvernements progressistes, notamment Pepe Mujica. Donc voilà, il y a un renouveau et un retour à la gauche au pouvoir.
Alors la gauche, selon plusieurs observateurs, avait perdu la précédente présidentielle à cause de l'insécurité. Beaucoup de personnes avaient expliqué qu'en fait, le discours de la droite avait trouvé plus d'écho. Qu'est-ce qui a changé cette fois ? Vous nous disiez que la gauche était mieux préparée. C'est le cas aussi sur ce dossier-là de la sécurité ?
Ce n'est pas sûr. L'insécurité en Uruguay est un problème gravissime avec l'implantation autour du port de Montevideo du narcotrafic, quelque chose qui était totalement inconnu de ce pays il y a quelques années à peine. Mais la population a pris conscience que ce n'est pas un problème de couleur politique, que le problème est sérieux, qu'il y a un enjeu majeur et on ne tient pas rigueur à la gauche d'avoir mal procédé comme c'était le cas auparavant où la population était un peu sous le choc de cette violence croisante, toute proportion gardée. Ce n'est pas les autres pays de l'Amérique latine qui souffrent vraiment d'une violence civile extraordinaire comme le Mexique ou le Brésil.
Alors un mot encore peut-être sur ce point. En fait, la droite a tenu ses promesses de campagne sur cette question de l'insécurité. Il y a eu des effets, mais pas sur le taux d'homicide. Est-ce que ça a pu jouer selon vous ? Est-ce que la droite a pu être sanctionnée ?
Les observateurs, moi-même, je ne le pense pas. Je pense que, justement, comme je disais, la prise de conscience, c'est que le problème est plus grave et transversal. En revanche, la droite a été fortement sanctionnée par les affaires de corruption, notamment celle de l'attaché de sécurité du président de la République qui s'est vu confondu dans une affaire de trafic de passeports.
Alors les deux candidats pendant cette campagne ont aussi beaucoup parlé des questions économiques. Sur ce point, qu'est-ce qui les différencie ? Parce que ça n'est pas toujours très clair.
C'est la sécurité sociale, la croyance dans un état social et le fait que l'Uruguay ne s'est pas si mal sorti ces 5 dernières années, mais la situation des plus pauvres s'est beaucoup détériorée. Il faut savoir que l'électorat uruguayen a été quasiment divisé par moitié égale. Hein. La différence de voix est assez tenue. Et que donc ce retour de la partie la plus exposée des classes populaires vers le giron de la gauche a certainement fait la différence. Le Frente Amplio, le front large qui réunit la gauche, a fait une excellente élection parmi les couches les plus modestes de la population.
Et est-ce que vous pensez que Chamandou Orsi va pouvoir continuer à bénéficier de ce soutien puisqu'il a promis pendant sa campagne un changement qui ne serait pas radical? On a entendu aussi dans les explications de notre correspondant et cet extrait de son discours d'hier qu'il ne promet pas une rupture vraiment très forte avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Il a parlé de la nécessité de trouver des accords. Qu'est-ce que ça veut dire sur les mesures qu'il va mettre en place ?
D'une part, que les deux chambres du Sénat et des députés sont divisées. L'un, les sénateurs sont entre les mains de la gauche. La gauche a la majorité. C'est le cas contraire dans la Chambre des députés. Donc, il y a une obligation, une contrainte de négociation qui s'impose. N'importe lequel des deux candidats qui aurait gagné, ce serait la même configuration. Et d'autre part, le fait que l'Uruguay est un pays un peu particulier dans le concert de l'Amérique latine, dans le sens où ce n'est ni une droite populiste, comme on peut voir aujourd'hui en Argentine ou comme on a pu voir au Brésil de Bolsonaro, ni une gauche populiste non plus. Donc il y a une tradition d'accord, de gouvernement, de coalition, d'entente. L'opposition gouverne aussi plusieurs départements du pays et plusieurs entités de l'État où participe à son gouvernement. Donc voilà, il y a une tradition de négociation qui est importante et aucun des deux candidats ne va vers les extrêmes. Les deux ont conflué vers le centre en termes idéologiques. La gauche réunie n'est plus une gauche majoritairement radicale et la droite à mener un gouvernement qui est, somme toute, d'inspiration libérale, mais assez modéré comparé à d'autres.
Est-ce que ça veut dire que cette coalition sortante de centre-droit va quand même laisser les mains libres au nouveau président ou est-ce qu'elle va jouer un rôle important? Est-ce qu'il pourra faire tout ce qu'il a promis, notamment ce qui concerne la sécurité sociale, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure?
C'est possible. La gauche au pouvoir dans les trois périodes précédentes, entre 2005 et 2020, a fait d'énormes progrès en termes de protection sociale, notamment dans la réforme de la santé, des négociations salariales, de protection des travailleurs agricoles, une réforme importante de l'université et de la recherche. Et la droite n'était pas aussi minoritaire qu'on peut le croire. Elle avait un rôle important et elle n'a pas d'effet. Ces conquêtes ou ces réformes qui ont été faites par la gauche, il y a parfois des diminutions. Il y a eu des diminutions concernant la distribution de revenus, notamment, qui ont favorisé les plus riches. Mais l'Uruguay a traversé la pandémie, a maintenu son taux d'échange. L'économie est relativement stable, bien qu'avec une croissance très faible. Donc la population ne sort pas d'un gouvernement totalement défait et en catastrophe. L'opposition garde, l'actuel gouvernement, future opposition, garde une marge de manœuvre importante, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle exerce une minorité de blocage.
Dernière question, il nous reste assez peu de temps, mais je voulais évoquer les rapports régionaux à l'échelle régionale, puisque le nouveau président a dit qu'il voulait développer les échanges à cette échelle. Avec quels pays en particulier il pourrait travailler ou quelles organisations ?
Il y a une familiarité de couleur politique avec le Brésil, hein, le Brésil de Lula, une amitié de longue date de ces deux formations politiques qui sont le Frente Amplio et le PT. Mais l'Uruguay est un pays qui est pour beaucoup dépendant de ces deux grands voisins, l'Argentine et le Brésil, indépendamment de la couleur politique de ceux qui gouvernent. Il y a des échanges structuraux qui sont importants de par le voisinage et de par les structures des économies. Donc l'Uruguay va être obligé, la gauche uruguayenne va être obligée d'avoir des bonnes relations avec le président Milei, par exemple, en Argentine, ce qui ne sera pas facile. Et d'autre part, il va se projeter vers l'international comme il l'avait fait pendant les précédents gouvernements de gauche, en allant vers l'Asie et la Chine, notamment, justement pour essayer de diminuer la dépendance vis-à-vis de ses voisins.
Merci beaucoup, Denis Merclen, d'avoir été en ligne avec nous, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle et directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Voilà pour la situation en Uruguay. On va continuer à parler d'élections au Chili, cette fois dans votre revue de presse, Vincent Souriau, avec une bouffée d'air frais pour Gabriel Boric.
Et oui, le parti au pouvoir souffle enfin après le deuxième tour des élections au poste de gouverneur du Chili. Victoire dans des territoires clés à Valparaiso ou dans la région métropolitaine de Santiago. Sur les 16 régions chiliennes, gauche et centre-gauche en décroche 8, 6 pour la droite. Du mieux donc pour Boric qui avait souffert lors des municipales. Et puis le Venezuela, on va y revenir. revenir, Anne, sur ce thème, hein, de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Répression politique au Venezuela à la suite de l'élection présidentielle. Les femmes victimes directes et indirectes, en particulier les mères de prisonniers politiques condamnés à assurer l'accompagnement de leurs proches dans des conditions dramatiques et souvent au détriment du reste du groupe familial. C'est ce que rapporte le journal vénézuélien El Nacional. En outre, près de 13% des enfants et des adolescents ne fréquentent pas d'école, en tout cas pas de manière régulière. Et ce fléau touche avant tout les filles et les adolescentes qui sont plus susceptibles d'abandonner leurs études pour assumer des tâches domestiques ou s'occuper de leur famille, avec des risques énormes, notamment de grossesse précoce, dont le taux au Venezuela double presque la moyenne régionale, s'établissant à 97 grossesses précoces pour 1000 filles et femmes entre 15 et 19 ans.
Vincent Sourieux, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de votre revue de presse. Mais avant cela, on va en voir une illustration de ces violences contre les femmes en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Puisque vous nous le disiez, ce 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, lutte contre les féminicides. Un toutes les 10 minutes dans le monde, lutte contre les innombrables atteintes à leurs droits, contre l'instrumentalisation de leur corps, contre les viols qui se produisent presque systématiquement dans les zones de guerre. C'est le cas en Haïti, où les femmes subissent la violence des gangs. Et au-delà de ces violences physiques, elles sont aussi souvent touchées davantage que les autres par la précarité, plus affectées par les déplacements forcés. Et ces atteintes laissent évidemment des cicatrices profondes, sans que ces femmes puissent bénéficier du soutien psychologique et physique dont elles auraient besoin. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Peterson Luxama.
En Haïti, au cœur des conflits des gangs armés, les femmes paient un lourd tribut. Délise Firmante est l'une des nombreuses femmes ayant fui son quartier pour échapper à la violence des gangs.
Les bandits nous ont chassés de la zone, nous avons dû partir, nous dormons chez des gens. Nous vivons une situation extrêmement difficile, nous ne savons pas quoi faire.
La situation alarmante de ces femmes pousse des organisations de défense des droits humains à réagir. Émilie Marcelin, responsable de l'axe genre au sein du collectif Défenseur Plus, dresse un tableau sombre de leur réalité.
Avec le pouvoir et l'influence croissant des gangs dans le pays, la vie des femmes devient de plus en plus compliquée. Leurs activités sont paralysées et les gangs les poussent à fuir dans les rues. Elles subissent des viols collectifs de la part des groupes armées, tandis que les femmes cherchant refuge dans des camps de déplacés mal organisés y sont également confrontées à des agressions et du harcèlement sexuel.
Cette triste réalité préoccupe également des organisations féministes comme Neges Marron, qui a accompagné cette année des centaines de femmes victimes de violences, selon Abigail Dérolien, l'une des responsables.
Au cours de l'année 2024, Neges Marron a recensé et pris en charge environ 700 cas de violences faites aux femmes, dont 230 cas de viol à carrefour et agressifs.
Neges Marron, comme de nombreuses autres associations, réclame des mesures urgentes face à cette situation. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
La situation dramatique en Haïti et la criminalité, Vincent Sourieux, s'aggrave ces dernières semaines.
Oui, une nouvelle offensive des groupes armés depuis la mi-octobre. Plusieurs zones de Port-au-Prince sont de nouveau à feu et à sang. Et les critiques fusent. Où est passée la mission multinationale d'assistance à la sécurité, la MMAS, forcée de se justifier hier dans un rare communiqué? De nombreux Haïtiens, je cite, remettent en question le rôle de la MMAS et sa gestion de la situation sécuritaire. Eh bien, la MMAS continue d'effectuer des patrouilles conjointes de jour et de nuit, poursuit le texte. Et bien que ces opérations ne soient pas largement médiatisées, la force internationale indique avoir mené aux côtés de la police nationale haïtienne un assaut hier dans le quartier de Badelma, assaut musclé selon Radio Métronome. Pas de bilan détaillé, mais plusieurs bandits tués, d'autres blessés. Les forces de l'ordre sont en train de traquer Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Il a failli être arrêté la semaine dernière. Le bâtiment qu'il occupait, où il avait élu domicile, a été rasé. Il est encore en fuite, mais la pression s'accentue.
RFI Midi, Anne Cantner.
Et puis dernière partie de votre revue de presse, Vincent Sourieux, aux États-Unis, où la chronique dénomination continue à Washington.
Et oui, Donald Trump toujours à la recherche de son administration idéale. Les tribunes inquiètent dans le quotidien politique The Hill à propos du FBI. Le bruit court que son patron va jeter l'éponge, sans doute dès le mois de janvier, avant l'investiture du nouveau président. Et bien sûr, question à 1 million de dollars, qui va le remplacer? C'est un paquebot, le FBI, budget colossal, 11 milliards de dollars, personnel pléthorique, 35 000 employés. policiers. Mission tous azimuts, anticriminalité, sécurité nationale, eh bien, ce n'est pas d'un juriste dont le FBI a besoin, lit-on dans cette tribune. Depuis 1978, tous les directeurs du FBI ont été choisis dans la magistrature ou dans les rangs du ministère de la Justice. Il faut que ça change, Marcel Verheel, il faut aller contre cette habitude et désigner à la tête du FBI soit un ancien agent, soit un pro du maintien de l'ordre. C'est un mandat de 10 ans, censé passer au-dessus des changements de majorité, protéger le bureau de toute interférence politique. Force est de constater, poursuit cette tribune, que les directeurs issus du monde de la justice ont fait plutôt l'inverse. Il est temps de dépolitiser une institution qui, je cite, la moitié du pays assimile à la Gestapo personnelle de Joe Biden. Je vais reformuler cette phrase, Anne, pour que ce soit très clair. La moitié des États-Unis estime que le FBI est une police politique au service de Joe Biden. Eh bien, cela, cette tribune estime qu'il faut que ça change.
Vincent Souriau, il y aura même une version écrite, pour être sûr, sur notre site internet rfi.fr.
RFI Midi.
Et on va parler de nouveau des violences faites aux femmes avec nos confrères de La Première, Odane Agiali. Ces violences subies par les femmes, elles augmentent en Martinique.
Écouter pour entendre, c'est le thème de la 25e édition de la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes en Martinique, campagne qui va durer toute la semaine dans le département. Martinique où l'année dernière, quasiment 13 femmes âgées de 15 à 64 ans sur 1000 ont été victimes de violences conjugales. Xavier Chevalier, Martinique La Première.
En Martinique, les violences faites aux femmes sont une nouvelle fois en hausse. Les précisions d'Odile De Fritsch, procureure adjointe pour le parquet de Fort-de-France qui s'est penchée sur les violences intrafamiliales.
Il y a eu au parquet de Fort-de-France jusqu'au 21 novembre 2024, 19 procédures ouvertes du chef de viol sur conjoint. Encore 3 procédures ouvertes du chef de homicide sur conjoint. Dans l'activité correctionnelle pour le tribunal de Fort-de-France, le traitement des violences conjugales représente 13% de l'activité, ce qui est beaucoup.
Depuis le lancement du mouvement MeToo il y a 7 ans, la parole des femmes victimes de violences s'est davantage libérée, mais beaucoup n'osent pas dire ce qu'elles subissent. Une situation que regrette Rita Bonheur, la présidente de l'Union des femmes de Martinique.
Il y a cette nécessité de continuer à expliquer, à sensibiliser pour pouvoir faire en sorte que, d'une part, les victimes se sentent autorisées à parler, mais aussi que l'entourage soit davantage solidaire.
Depuis le début de l'année, en France, 122 femmes ont été victimes d'un féminicide. En ce lundi, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, des conférences et des projections débats se déroulent à Trinité et au Marégo.
Violences intrafamiliales qui sont deux fois plus nombreuses en Outre-mer que dans l'Hexagone. En Guyane, rebondissement dans l'affaire Alicia Faye, cette jeune femme originaire de Gironde, assassinée il y a 3 ans à Cayenne sur fond de trafic de drogue. La justice a remis en liberté conditionnelle pour vice de forme les deux principaux suspects. Les parents d'Alicia Faye viennent de porter plainte pour X contre X pour corruption. Selon eux, des agents de l'administration ont été achetés par les narcotrafiquants. Et puis c'est un tournant pour la médecine en Martinique. Inauguration samedi au CHU de Fort-de-France de l'Institut caribéen de l'imagerie médicale et de son fameux cyclotron. Cet équipement de pointe dans la détection précoce des cancers. Excellente nouvelle pour Emmanuelle Faustan. C'est la présidente de l'association Singulière qui vient en aide aux femmes touchées par le cancer du sein.
Je crois que cet outil va vraiment permettre de conforter nos patientes à rester ici en Martinique et à se faire soigner en Martinique parce que les compétences sont là et aujourd'hui l'outil est là. Donc je pense que le délai devrait être largement amélioré. Il y a quelques temps, effectivement, on nous parlait d'un délai de 2 mois ici en Martinique. Maintenant, je crois qu'il s'agit de 2 ou 3 semaines. On peut parler d'un délai de 21 jours au grand maximum. Donc les choses se sont largement améliorées.
Un des propos recueillis par Audrey Govindin de Martinique La Première. À demain, Anne.
À demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur RFI dans une minute maintenant de vive voix avec Pascal Paradou. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Rendez-vous demain à partir de 11h30 temps universel. Et puis vous le savez, vous retrouvez évidemment toutes nos informations sur internet rfi.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous.
RFI, la sélection du mois.
Lucie Bella. De Bongo Hop et Kefi Yassin.
Levé, bonnet, bourriqué, collé, serré, zombifié.
RFI Musique.